Bonsoir. Emmanuel Macron réfléchit à une nouvelle façon de communiquer avec les Français à la rentrée. C'est son porte-parole Christophe Castaner qui le dit et cela pourrait passer par l'utilisation de Facebook. Le parti La République En Marche souhaite d'ailleurs devenir un média. Alors que vont devenir les journalistes politiques? Intervenez sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson par mail sur le site franceinter.fr et au 01 45 24 7000.
Louis da Silva. Le téléphone sonne.
Alors, bien des hommes politiques utilisent les réseaux sociaux, notamment Jean-Luc Mélenchon qui possède sa chaîne YouTube. Je vous propose d'écouter le chef de la France Insoumise. C'était pendant la campagne électorale.
15 millions de vues sur l'ensemble de mes vidéos. Heureusement que j'ai ça. Parce que si je dépendais de gags comme l'autre soir, là, l'émission politique... Quelle possibilité auraient les gens de savoir ce que je raconte ?
Aucune. Un extrait du documentaire de Gilles Perret disponible actuellement sur le site de Public Sénat. Et voilà qui lance le débat avec ce soir Gaspard Ganzer, ancien responsable de la communication de François Hollande à l'Élysée. Bonsoir.
Bonsoir.
Manuel Bompard, directeur des campagnes de la France Insoumise en direct de France Bleu Toulouse. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Frédéric Mettezeau, chef du service politique de France Inter. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous.
Et la première question au 01 45 24 7000, c'est avec vous Pierre. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Mon étonnement, ma question, c'est les journalistes sont inquiets de voir apparaître une nouvelle forme de journalisme politique, mais il faudrait qu'ils fassent leur mea culpa. Ils n'ont rien vu venir de l'élection de Macron. Ils n'ont rien vu venir ils ont même expliqué qu'il ne serait jamais élu dans un premier temps. Ensuite, qu'ils n'auraient pas de parti. Ils sont trompés sur tout. Aucun d'entre eux ne s'est excusé. Je comprends que Macron et Mélenchon, c'est un peu grotesque, hein, il ne parle que de lui, il invite des politiques et il ne parle que de lui. Mais on attend de voir ce que va faire Macron avec sa démission ou sa technique représentative par Facebook. En effet, moi j'attends encore le mea culpa des journalistes politiques. Il y a eu, le New York Times a fait son mea culpa devant l'élection de Trump, il l'a fait, mais ils ont expliqué qu'ils se sont trompés, qu'ils ont eu tort. Mais je n'ai pas entendu un seul journaliste politique. Pourtant, on a des spécialistes dans tous les sens, hein, et on est abreuvé de tables rondes, de tout. Voilà.
Et on en a un ce soir pour vous répondre, Pierre.
Je suis désolé pour lui. Voilà.
on attend alors un mea culpa de la part des journalistes, Frédéric Mettezeau. Est-ce que c'est nécessaire, selon vous?
Alors d'abord, je peux pas parler au nom des journalistes. Je suis journaliste politique à France Inter, donc je vais parler essentiellement du travail que le service politique, que les reporters et le responsable de ce service, votre serviteur, ont effectué. Alors, mea culpa par rapport à ce que dit Pierre. Malheureusement, Pierre, je suis désolé, mais il n'y a pas de mea culpa à faire. Dans un sens, c'est que les journalistes ne sont pas là pour prédire l'avenir. C'est-à-dire, notre auditeur nous dit les journalistes n'ont pas vu arriver l'élection de Macron. Le but d'un journaliste n'est pas de dire ce qui va se passer. Le but d'un journaliste, c'est de raconter ce qui se passe, de l'expliquer, de l'expliciter, de le mettre en perspective. Parce que effectivement, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas prédire dans la vie politique. Je pense que Gaspard Ganzer a connu un quinquennat avec des surprises, des rebondissements, parfois tragique, pas seulement des rebondissements politiques. Donc, si on reproche aux journalistes de ne pas avoir prédit l'élection d'Emmanuel Macron, je peux pas faire de mea culpa sur ça.
Mais en même temps, Frédéric, pendant la campagne, il y a les adversaires d'Emmanuel Macron qui accusaient les journalistes de faire élire Emmanuel Macron et lui donner beaucoup d'importance en se basant notamment sur les sondages.
Alors, deux choses. Effectivement, nous avons été traités soit sur les réseaux sociaux, soit par mail, soit dans des discussions qu'on peut avoir de Radio Macron. On a été aussi simultanément traité de Radio Bolcho et Radio Gaucho. On a également été traité de Radio Hollande. Et enfin, certaines personnes nous ont reproché de trop donner la parole à Marine Le Pen et au Front National. En réalité, il y a, je pense, deux juges de paix. Ce sont les temps de parole. Nous avons équitablement donné la parole à tous les candidats. Et ensuite, nous nous sommes fixés sur France Inter une règle qui était de traiter avec une extrême parcimonie les sondages. On s'est basé que sur un institut de façon extrêmement économe, c'est-à-dire maximum un compte rendu de sondage par mois. Mais oui, effectivement, le problème, c'est que chaque opposant voit la radio qu'il écoute comme le soutien du candidat qu'il déteste le plus.
Alors Manuel Bompard de la France Insoumise, est-ce que vous aussi, vous êtes plutôt comme Pierre, vous dites que les journalistes doivent faire un mea culpa ?
D'abord, bien sûr, le rôle d'un journaliste n'est pas de prédire, ça je suis d'accord. Ceci étant dit, la colère est quand même assez grandissante vis-à-vis de la profession de journaliste aujourd'hui dans notre pays, et je pense qu'il faut en comprendre les ressorts. Le journalisme, les médias sont un pilier de la République. Moi, j'ai coutume de dire que pour que la République fonctionne bien, il faut que les gens soient bien éduqués. C'est pour ça que l'éducation est un premier pilier. Et puis, il faut qu'ils soient bien informés. Et c'est le deuxième pilier, celui des médias. Or, aujourd'hui, de plus en plus, on a quand même le sentiment que les médias n'informent pas, mais qui diffusent, en fait, une conception de la société. Et c'est, par exemple, assez flagrant quand vous allumez les chaînes de télévision aujourd'hui et quand vous mettez les éditorialistes économiques pour lesquels il n'y a qu'une seule recette économique possible pour sortir le pays des situations difficiles dans lesquelles il est aujourd'hui. Et je pense que cette situation-là, elle pose quand même une difficulté vis-à-vis des Français et qu'ils le voient. Et c'est pour ça qu'il y a une colère aujourd'hui grandissante vis-à-vis des journalistes. Et le thème du débat aujourd'hui, c'est peut-on se passer des journalistes ? Je pense que le sujet, c'est pas vraiment est-ce qu'on peut se passer des journalistes, mais quelles sont les armes ou les outils qu'on peut utiliser dans une bataille électorale pour ne pas dépendre uniquement du traitement journalistique qui est fait d'une campagne. Et par exemple, dans le cas de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, si les nouveaux médias ont été très fortement utilisés, les réseaux sociaux, etc., c'est parce que c'était une possibilité d'abord de s'adresser à des gens qui n'écoutent pas les émissions politiques traditionnelles, mais surtout de le faire en dehors d'un biais qui est un biais du traitement journalistique aujourd'hui, qui est une raison et un motif économique.
Mais est-ce que vous avez l'impression, Manuel,
détenus par 9 personnes.
Est-ce que vous avez l'impression, Manuel Bompard, d'avoir été maltraité par les journalistes ?
Assez clairement, oui. Si vous voulez un exemple concret, et c'est sur votre antenne d'ailleurs, donc ça permet de le dire, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, on sort comme sujet majeur de la campagne présidentielle la question de l'ALBA, vous savez, l'Alliance bolivarienne, en faisant croire aux gens, parce que c'était un mensonge pur, qu'il s'agissait finalement de sortir de l'OTAN pour rejoindre l'ALBA, alors que si on parle de l'ALBA aujourd'hui, c'est un accord de coopération économique qui a strictement aucun rapport avec un accord de défense comme celui de l'OTAN. Je trouve que oui, il y a eu des polémiques qui ont été montées toutes pièces dans cette campagne et qui visaient clairement à faire peur, à inquiéter autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui progressait très fortement dans l'opinion.
Frédéric Mettezeau, chef du service politique de France Inter.
Deux réponses très rapides à Manuel Bompard. Peut-être que les équipes de Jean-Luc Mélenchon ont trouvé regrettable que cette information ou ces reportages aient été faits sur l'ALBA. C'est tout aussi regrettable que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas souhaité venir s'exprimer au micro de France Inter pour nous répondre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, les journalistes sont très critiqués dans la population et de plus en plus. Au-delà des journalistes, je suis navré de voir que c'est tous les corps intermédiaires qui sont critiqués. Il n'y a plus le même respect pour les instits ou pour les profs qu'il y avait auparavant. Les magistrats sont très souvent mis en cause. Les syndicalistes sont également souvent mis en cause. Les fonctionnaires sont mis en cause. Les hommes et les femmes politiques également. Il y a une défiance générale qui touche les corps intermédiaires et tous les émetteurs ou tous les intermédiaires qui est, je trouve, très, très préoccupante.
Françoise nous attend au 01 45 24 7000. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir messieurs et merci de prendre ma question. En ce qui concerne donc la création des informations par Emmanuel Macron, je trouve cela très inquiétant pour la démocratie. Et je voulais vous dire que moi j'espère que France Inter continuera à exister longtemps pour donner des informations avec parcimonie sur les faits et donner la réalité des faits pour avoir pas un contre-pouvoir mais une contre-version de la réalité.
Nous aussi, nous l'espérons. Merci beaucoup Françoise. Gaspard Ganzer, vous avez été responsable de la communication de François Hollande. Est-ce que pour vous c'est inquiétant pour la démocratie de voir comme ça qu'un parti comme La République En Marche veut se constituer en média pour s'adresser directement et sans doute contourner les journalistes ?
Alors il est déjà arrivé dans l'histoire de La République que des partis politiques veuillent prendre le contrôle de médias. Ils en ont même créé. L'Humanité a été créée par Jean Jaurès. Clémenceau avait créé un journal à la fin du 19e siècle, à l'époque de la Troisième République. Donc ce n'est pas nouveau. Moi je pense que les médias jouent un rôle indispensable dans la démocratie, celui d'un contre-pouvoir. Dans la dernière élection présidentielle dont on parlait à l'instant, ils ont joué un rôle capital pour éclairer le débat, mais aussi pour révéler un certain nombre de choses. Qu'aurait été cette campagne présidentielle s'il n'y avait pas eu le canard enchaîné, par exemple? C'est le canard enchaîné qui a mis devant les yeux de tout le monde la situation et les turpitudes de François Fillon et d'autres histoires concernant Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron. Et ils continuent aujourd'hui de faire leur travail depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il n'en reste pas moins qu'un homme politique, président de la République ou député, peut décider de s'adresser autrement aux citoyens, à travers les médias sociaux, notamment Twitter, Facebook, YouTube et d'autres. Ça permet de diffuser des messages directement sans l'intermédiation des journalistes, mais ça ne doit pas se substituer. Ce sont deux choses différentes. D'un côté, des canaux d'expression directs qui permettent de rapprocher le politique du citoyen ou le citoyen du politique, et d'autre part, les contre-pouvoirs du journaliste. Et juste un point là-dessus, moi je pense qu'il y a une chose qui n'est pas utilisée à l'heure actuelle, sur les réseaux sociaux. C'est que ça ne doit pas simplement être une parole descendante du politique vers le citoyen, mais le citoyen doit aussi pouvoir interpeller le politique via les réseaux sociaux, comme on le fait là, en ce moment, avec des émissions comme le Téléphone Sonne.
C'est-à-dire que lorsque le président de la République décidera de son moyen de communication à la rentrée, si c'est via Facebook, il sera seul et il va transmettre la parole. Est-ce que ce n'est pas le rêve de tout communicant? Et vous, Gaspard Ganzer, quand vous étiez à l'Élysée, est-ce que votre rêve, ça n'était pas justement de contourner les journalistes? Notamment, on a parlé de cette période du Hollande bashing, où toutes les critiques existaient sur les réseaux sociaux et faisaient la une de tous les quotidiens et les médias.
C'est sûr qu'on n'a pas eu tous les jours à se réjouir nous-mêmes en ouvrant les journaux, parce que les journaux et les journalistes ne nous ont pas épargnés. Mais c'est normal, ce n'est pas leur rôle. Parfois, on a regretté qu'ils regardent toujours le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Quand je vois aujourd'hui qu'on se réjouit de l'amélioration de la situation économique, ça ne s'est pas fait en un jour et on sait bien que c'est un mouvement qui a été lancé par François Hollande et ses équipes. Mais il n'en reste pas moins qu'on a toujours laissé les journalistes travailler en toute indépendance et j'en suis extrêmement fier.
Un peu trop parfois ?
Non, je pense qu'on, quand on décide de respecter l'indépendance et la liberté de la presse, on la respecte totalement et je pense que nous avons toujours su le faire avec intelligence. Est-ce qu'on a été payé en retour ou pas? Ce n'est pas la question. Les journalistes ne sont pas là pour soutenir les politiques, mais pour contrôler démocratiquement.
01 45 24 7000. Bonsoir Marie, bienvenue sur France Inter.
Bonsoir.
Allez-y.
Je voulais intervenir parce que je trouve que ça n'est pas incompatible avec le rôle des journalistes et que c'est au contraire quelque chose d'extrêmement positif et assez simple parce que c'est finalement juste utiliser un support supplémentaires pour communiquer directement. Et ça permet de toucher une population qui est jeune, qui actuellement se désintéresse totalement de la télévision, un petit peu de la radio, en tout cas des radios sur lesquelles des journalistes parlent et font des analyses, et que c'est juste un moyen de communication, comme l'étaient les dépêches de l'AFP, comme les discours à la télévision ou retransmis à la radio. Et c'est un moyen qui permet de toucher directement de la personnalité politique vers n'importe quel Français. Et ensuite, l'intérêt, c'est qu'on peut le suivre ou ne pas le suivre. Moi, j'ai beaucoup suivi, à l'époque de Obama, le compte POTUS, qui n'est plus utilisé maintenant par...
C'est le compte du président des États-Unis.
Voilà, exactement. Et c'était très intéressant. Mais tout comme sur Twitter, je suis énormément de journalistes qui ont quasiment tous, je pense, de journalistes, des éditorialistes, des analystes, qui ont beaucoup, beaucoup des comptes Twitter, et c'est des comptes Twitter qui sont très intéressants et souvent drôles d'ailleurs.
Manuel Bompard, directeur des campagnes de la France Insoumise, est-ce que vous aussi vous estimez que l'utilisation des réseaux sociaux c'est une alternative, c'est à côté du travail des journalistes?
Oui, bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'objectif, c'est de ne pas en dépendre. Ça ne veut pas dire que les nouveaux médias vont se substituer aux médias existants, mais c'est élargir la possibilité d'informer, de proposer aux citoyens une information, par exemple dans le cadre d'une campagne électorale, sur le programme qu'on peut y porter. Alors il y a ce que dit madame, c'est-à-dire le fait que ça permet d'élargir entre guillemets la cible, c'est-à-dire les gens qui reçoivent l'information parce que sur les réseaux sociaux, vous allez avoir un public qui va être un public plus jeune, plus connecté, plus à l'aise avec les nouvelles technologies. Et puis aussi parce que vous allez pouvoir vous décaler du filtre médiatique. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est inquiétant que M. Macron lance sa chaîne de télévision? Moi, je crois pas. Je crois que tout ce qui contribue à avoir de la pluralité des sources d'information n'a pas de raison de nous inquiéter. Ce qui
Emmanuel
est plus
Bompard.
Inquiétant, par
oui.
exemple, c'est que Emmanuel Macron ne fasse pas de loi contre la concentration des médias. Vous avez aujourd'hui 9 milliardaires qui détiennent 80% des médias dans ce pays. Ça, c'est un problème. Ce qui est plus inquiétant, c'est que les aides aux médias, les aides à la presse, elles sont captées par les grands groupes et que c'est de plus en plus difficile pour des journaux alternatifs d'exister.
Emmanuel
ça me
Bompard.
Paraît plus inquiétant Quelle pour la pluralité de l'information.
Quelle est votre vision des journalistes?
Ma vision des journalistes, je pense que c'est un rôle extrêmement important dans la société d'être journaliste. Ça a été dit, c'est un contre-pouvoir, c'est une possibilité c'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir exister dans une société, de pouvoir être informé convenablement. Mais je pense qu'il y a une différence entre les journalistes et les médias tels qu'ils sont aujourd'hui, qui pour certains constituent en quelque sorte une deuxième peau du système et qui visent à défendre le statu quo et à faire peur à tout ce qui pourrait apparaître comme une solution alternative.
Frédéric Mettezo, tout à l'heure, Marie disait, c'est très bien qu'il y ait ces nouveaux moyens, c'est un peu comme les dépêches de l'agence France Presse, et je vous ai vu tiquer.
Oui, la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon ou la future chaîne de La République En Marche ne sont pas comme des dépêches AFP, puisque la dépêche AFP est un article, alors certes, qui a une forme un petit peu différente de ce qu'on peut lire dans Le Monde, Le Figaro, Le Parisien ou votre quotidien régional, mais non, une dépêche AFP, c'est un article de journaliste. Et pour répondre à la question de l'inquiétude, moi je ne suis pas inquiet qui est une chaîne YouTube ou je ne sais tel réseau social créé par telle ou telle personnalité politique. En revanche, je serais inquiet si c'était présenté comme de l'information. Quand Jean-Luc Mélenchon ou quand n'importe quel autre homme ou femme politique diffuse un message sur YouTube, sur Twitter ou sur un blog, c'est pas de l'information, c'est de la communication ou c'est de la propagande. Je dis pas ça avec un terme péjoratif. Mm-hmm. La propagande, on parle de propagande électorale dans les textes officiels, c'est pas de l'information. Et je suis allé voir juste avant le téléphone sonne un nouveau site qui vient de se lancer, qui s'appelle The Real News, les vraies nouvelles. C'est un site lancé par les proches de Donald Trump, qui estiment aussi que les journalistes font mal leur travail. Et ce qui est problématique, c'est que ça ressemble complètement à un site d'information
et là, ça vous
classique.
Gêne.
Oui, ce qui me gêne, c'est que un jour, un outil de communication ou de propagande ait l'allure d'un journal, ait l'allure d'un blog, ait l'allure d'un site d'information. Sérieux. Sinon, après, qu'un homme ou qu'une femme politique diffuse, j'ai aucun problème avec ça. Ils faisaient des livres précédemment, et aujourd'hui, ils font des chaînes YouTube.
Gaspard Ganzer.
Moi, je suis un grand fan de l'information qui peut être diffusée sur Internet, parce qu'il y en a aussi qui est diffusée par les journalistes et qui est vérifiée. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus aussi voir Internet comme un énorme espace de liberté dans lequel la liberté d'expression serait totale. Il y a beaucoup de désinformation, de fake news. Et puis, si les journaux sont possédé par quelques grands milliardaires. Alors, qu'est-ce qu'a Internet? Google, Facebook, Twitter. Je ne sais pas s'il vaut mieux être dans la main de Google, Facebook et Twitter ou dans la main des journaux dont certains sont des services publics. Là, je pense à Radio France et à France Télévisions. Il n'y a pas de service public sur le web.
Guy est au téléphone avec nous. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Le Téléphone Sonne sur France Inter.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai l'impression d'arriver comme un cheveu sur la soupe, là, puisque j'allais partir sur autre chose. Dans l'idée de... Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est que des sites comme Facebook, ou au moins les services comme Facebook, soient pas des services publics. Mais ça, on reparlera, c'est un autre sujet.
C'est un autre sujet,
donc,
oui.
À propos de Facebook, j'ai lu là, bon, parce que comme je parcours beaucoup Twitter, une annonce, et puis je suis pas descendu dans l'article, qui disait que dans les timelines ou dans les fils de discussion de Facebook, que Facebook allait insérer des communications politiques, alors d'hommes politiques ou de partis politiques. Comme je suis pas descendu plus en détail, est-ce que
vous voulez qu'on le fasse pour vous, c'est ça?
Voilà, un peu. Et puis de l'autre côté, ça s'insère comment vis-à-vis du reste des communications des autres, comme En Marche ou alors Monsieur Mélenchon, qui malheureusement ne vient jamais sur France Inter quand j'écoute France Inter.
Alors on va poser la question, on va transmettre le message à Manuel Bompard, le directeur des campagnes de la France Insoumise.
Si vous me posez la question sur Jean-Luc Mélenchon, je vais vous dire que moi je suis à votre micro, un certain nombre de responsables de la France Insoumise sont là, donc voilà, on discute bien évidemment avec tout le monde. Ensuite, si vous posez la question sur qui rejoint un peu la remarque de monsieur tout à l'heure sur la propriété privée de Google, Facebook, etc. Effectivement, je pense que c'est une difficulté, et on voit bien d'ailleurs, et c'est ce que dit monsieur, qu'il va y avoir sans doute maintenant une volonté de mieux contrôler ces nouveaux médias, parce que dans la campagne présidentielle, je pense qu'ils ont pris une dimension qui est une dimension importante et extraordinaire. C'est pour ça que, par exemple, moi je crois que des combats comme le combat de sur la neutralité du net sont des combats qui vont être de plus en plus d'actualité aujourd'hui, sur comment on fait en sorte, bien évidemment, Internet n'est pas un espace où la liberté est totale, mais où on garde un espace, on va dire, où la pluralité des opinions politiques peut s'exprimer. Donc pour l'instant, je peux vous dire que par exemple sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a jamais eu de biais, il n'y a jamais eu de censure, il n'y a jamais eu de la part du système qui l'héberge, c'est-à-dire YouTube, une incapacité à exprimer un message, une vidéo qui serait supprimée ou censurée. Pour l'instant, ça n'a pas existé.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Et cette question par mail signée Arthur, la question des temps de parole. Voilà pourquoi j'imagine, les politiques vont se réfugier sur Internet où il n'y a pas de format. Frédéric Mettezo, est-ce que c'est là un très bon point de vue ?
Écoutez, si vous m'interrogez sur les temps de parole, je pense qu'effectivement, c'est une réglementation qui n'est plus adaptée à notre époque.
C'est le CSA qui décide, hein, Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Voilà, c'est le CSA qui décide. Alors, il y a deux phases. Une phase où l'on estime que le temps de parole se fait, grosso modo, en fonction de la force d'un parti politique au Parlement, à l'Assemblée nationale. Par exemple, aujourd'hui, pour donner un temps de parole équitable, il faut donner, je crois que La République En Marche a 70% des sièges, à peu près, il faudrait, dans un temps de parole équitable, avoir 70% pour La République En Marche. Ce sont les consignes du CSA qui sont elles-mêmes issues d'une loi votée par les parlementaires. Donc nous sommes censés les appliquer. J'avais dit début avril dans un éditorial à 7h45 dans le 7-9 de France Inter que j'étais personnellement contre ce nouveau comptage, mais que nous devions les respecter parce que je pense qu'effectivement l'info ne se fait pas au poids. Je pense qu'une minute n'égale pas une minute et que parfois un homme ou une femme politique pourra dire quelque chose de très intelligent en 15 minutes et que d'autres personnes n'auront besoin que de 8 minutes et d'autres auront besoin de 25 minutes.
Mais est-ce que, Frédéric, la question d'Arthur, ce n'est pas aussi la difficulté pour les journalistes de rendre compte de l'ensemble d'une action de politique dans un format qui est réduit souvent une minute 15
Alors,
à,
non
à
seulement,
la radio.
Effectivement, vous le savez Noé, c'est compliqué de faire parfois passer un message en une minute 10, une minute 15. C'est encore plus compliqué quand on nous demande de faire les équivalents. C'est-à-dire, si vous avez accordé, je mets des guillemets, généreusement un reportage de 3-4 minutes, ce qui commence à être assez long en radio à un candidat, eh bien dans une campagne présidentielle, vous devez donner également 3-4 minutes aux 11 autres candidats. Donc oui, effectivement, la remarque de votre auditeur est parfaitement justifiée. Nous-mêmes souffrons d'un carcan et donc les hommes et femmes politiques essayent d'aller ailleurs et c'est bien légitime. J'ajoute qu'on souhaite minuter les temps de parole des politiques à la télévision et à la radio. On ne cherche pas à minuter la taille des articles de la presse écrite et heureusement, et c'est normal, est-ce qu'on imagine un temps de signe qu'on appliquerait au Figaro, au Monde, à Libération. Ce serait absurde, et c'est absurde pour les médias audiovisuels.
Gaspard Ganzer, quand vous étiez communicant de François Hollande à l'Élysée, qu'est-ce qui vous gênait le plus dans le travail des journalistes ? C'était effectivement que ce soit réduit dans un format ?
Non, enfin, ce qui me dérangeait le plus, c'était, et globalement j'avais assez peu de reproches à faire, c'était l'ultra-buzz, c'est-à-dire la concentration extrême des journalistes sur un sujet unique.
Le suivisme.
Parfois un petit côté moutonnier que les journalistes reconnaissent eux-mêmes. Et parfois, quand des journalistes m'agaçaient, ce qui m'arrivait parfois, je leur disais, là tu me demandes cet élément de toute urgence, mais ça a l'air capital, mais est-ce que tu te souviens quelle était l'urgence d'il y a deux jours ? Et en général, il n'y avait pas de réponse.
Zachary est avec nous au 01 45 24 7000. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Merci. Donc moi, je suis lycéen, donc j'ai sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook. Mais je lis quand même la presse, j'écoute France Inter et je lis la presse écrite. Et je pense que c'est quand même deux choses qui peuvent pas être confondues. je crois quand même que les réseaux sociaux sont plus proches d'une certaine forme de propagande, parce que ça va quand même propager des idées bien définies par la personne directement. Il n'y a pas de filtre.
Donc vous faites la part des choses.
Bah oui, je crois quand même qu'il faut se rendre compte que Twitter, ça touche plus facilement, enfin la secte, ce qu'on retweet, on lit pas forcément les articles, on retweet le titre, alors que justement dans un journal ou une émission de radio va y avoir peut-être plus de fond et un peu plus d'objectivité, même si c'est un peu orienté certains médias.
Gaspard Ganzer.
Non mais je pense que Frédéric Mettezo complétera, mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est que les journalistes n'opposent pas d'un côté les médias sociaux et Internet et de l'autre côté la presse traditionnelle. Les journalistes ont un rôle capital à jouer en ligne, et d'ailleurs ils le font, puisque toutes les rédactions se sont numérisées, et les journalistes doivent aussi être présents, éditorialisés, donner des informations via le web, qu'ils soient des pure players comme Mediapart ou d'autres, ou des chaînes plus traditionnelles comme France Inter qui est très présente sur le numérique.
Olivier, non, c'est Lise qui est avec nous au téléphone. Bonsoir, 01 45 24 7000, bienvenue sur France Inter.
Oui, bonsoir et merci de prendre mon appel. Alors voilà, j'ai lu que 40% des informations sur les réseaux sociaux sont fausses, et ça dans des magazines qui sont quand même assez sérieux. Je ne peux pas vous les citer parce que je m'en rappelle pas bien. Mais je crains que si nous sommes inondés de faits de toutes sortes, des petits, des gros, mais tout le temps, on peut avoir le nez dans le guidon avec une communication et la manipulation de l'émotionnel. Et moi, j'attends des journalistes, du recul et des analyses. C'est ça qui m'intéresse.
Frédéric Mettezo de France Inter.
Je défends le recul et l'analyse, et précisément je pense que le recul et l'analyse nécessitent de travailler, nécessitent d'avoir des professionnels qui travaillent. Pour ça, il faut se donner un peu de temps, il faut se donner un peu de moyens, il faut aussi aller se confronter aux politiques, et il faut pas avoir peur de se fâcher avec eux. Et c'est effectivement dans la confrontation, dans la dialectique, qu'on arrive ensuite à faire émerger un point de vue un petit peu étayer, ça c'est la première chose. Et ensuite, et pour revenir peut-être sur le début de l'émission, sur la mise en place des canaux de communication par telle ou telle politique, ces canaux, ils sont gratuits. Or, l'information, elle est payante, et si notre auditrice, dont Élise, veut avoir une information qui soit analysée et étayée, il faut que ce soit fait par des professionnels, et ça, ça a un coût, et c'est pour ça que aussi, il faut là encore bien faire la différence entre une information gratuite diffusée par tel ou tel réseau social et une information payante qui est faite par des professionnels. On paye pour sa baguette, on paye pour sa prothèse dentaire, et ben il faut payer pour son information aussi.
Manuel Bompard de la France Insoumise, est-ce que utiliser les réseaux sociaux comme le fait par exemple Jean-Luc Mélenchon qui est seul face caméra, ça permet d'éviter les questions des journalistes?
Non, je crois pas. Bah, par exemple, vous savez, dans
la
campagne de Jean-Luc Mélenchon... Alors, je vais vous donner un exemple pour vous montrer que c'est pas le cas.
D'accord.
Dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, on a fait une émission, par exemple, qui s'appelait Esprit de campagne sur le budget de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et la preuve qu'on n'avait pas peur des questions des journalistes, c'est qu'on a proposé à des journalistes de venir sur notre plateau nous interroger sur justement notre chiffrage, y compris porter la contradiction. Donc bien évidemment, il ne s'agit pas de supprimer toute forme de contradiction, parce que l'information, et je suis d'accord avec ce qu'a dit monsieur, elle vit aussi de la contradiction des points de vue. Ce que je retrouve pas trop dans le paysage qui est dressé là, un petit peu au fur et à mesure des questions et des débats, c'est qu'on a le sentiment qu'il y aurait d'un côté le journaliste purement objectif qui serait le journalisme des médias traditionnels, et puis qu'il y aurait de l'autre côté juste une pure propagande de communication qui serait la presse sur Internet. Mais si bien évidemment la chaîne YouTube d'un candidat à l'élection présidentielle, elle n'est pas objective, elle défend un point de vue, des propositions, je pense qu'il faut aussi regarder que, je ne vais pas mettre tous les médias dans le même sac, mais qu'une grande partie de l'appareil médiatique, il n'est pas non plus objectif. Voilà, sur les questions par exemple économiques, il défend une ligne économique, il adopte une novlangue qui est la novlangue aujourd'hui, qu'il faut faire des réformes, le dialogue social, alors qu'il ne s'agit pas de dialogue social. Je vous donne ces exemples-là pour dire il n'y a pas d'un côté tout ce qui serait purement objectif et de l'autre côté ce qui serait purement propagande ou communicationnel. Et si ces médias-là sur Internet sont si importants que ça, c'est je crois qu'ils permettent de contrebalancer par rapport à un discours et une idéologie dominante qui va toujours dans le même sens.
01 45 24 7000, c'est le téléphone sonne sur France Inter et nous souhaitons la bienvenue à Olivier, bonsoir.
Bonsoir. Oui, je voulais faire simplement deux remarques. La première, c'est que il me semble qu'il y a quand même une confusion sur le sujet du débat de ce soir entre propagande et information. En l'occurrence, là, on a un parti politique qui est au pouvoir et a priori bien au pouvoir et qui semble vouloir ouvrir une chaîne d'information. c'est d'abord, je trouve ça un peu inquiétant parce qu'il y a une confusion des genres. Et puis, surtout, là, ce qui me choque particulièrement avec ce parti politique, La République En Marche, c'est qu'après avoir réussi à gagner les élections et à prendre le pouvoir, notamment en s'érigeant en rempart au populisme et aux extrémismes, finalement, ce parti me semble être en train de prendre les mêmes outils que les extrémistes qui ont été portés au pouvoir aux États-Unis avec Donald Trump, c'est-à-dire mise en place d'un média qui dépend du parti, qui peut diffuser finalement de la propagande en lieu et place d'information. Et je trouve ça pour le moins paradoxal, piquant et inquiétant pour l'avenir.
Gaspard Ganzer, ancien communicant de François Hollande à l'Élysée. Inquiétant, confusion des genres.
Je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus. Les partis politiques ont toujours fait des tracts, se sont déplacés dans les marchés pour expliquer leur action. Là, ils le font, ou ils vont le faire par Internet, qu'il s'agisse de la France Insoumise ou de la République En Marche ou d'autres. Ça existe sous une forme différente, peut-être de façon plus massive. L'essentiel est que ça ne soit pas assimilé à de l'information journalistique. Les hommes politiques peuvent s'adresser directement, et de l'autre côté, les journalistes peuvent poser des questions tout aussi librement. C'est ça qui compte. Et j'ajoute quand même quelque chose, c'est qu'il est important que Internet ne soit pas simplement utilisé comme un vecteur d'information descendante. Il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut que les internautes, les citoyens, puissent interroger les partis politiques. Là, ça devient intéressant. Si la France Insoumise, si la République En Marche recueille des témoignages, des questionnements directs des citoyens en ligne, là, on inventera quelque chose de différent.
Manuel Bompard de la France Insoumise, justement, c'est la fameuse plateforme.
Oui, j'ai envie de dire sans doute pas suffisamment, mais ça, c'est un petit peu fait. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de l'émission sur le chiffrage qu'on a organisé purement sur YouTube, il y avait, je disais tout à l'heure, des journalistes qui étaient invités, des journalistes de la presse économique, mais il y avait aussi une possibilité des spectateurs, des citoyens qui regardaient l'émission, de pouvoir poser des questions, s'adresser, et qu'il y ait une forme d'interactivité qui est rendue effectivement plus facile par l'utilisation d'Internet, et de manière générale, mais ça va au-delà, je pense, du sujet de ce soir. Mais la question des nouveaux moyens de communication et d'Internet dans le fonctionnement des organisations politique, je pense, dans cette campagne électorale, a franchi un palier. Et par exemple, la campagne de la France Insoumise, elle s'organise tout autour d'une plateforme qui était la plateforme qui, on va dire, occupe les places centrales qui sont normalement les places centrales d'une organisation politique. Vous pouvez commander du matériel, vous pouvez commenter, participer à la discussion et à l'élaboration collective du programme. Donc c'est clair que Internet offre des nouvelles formes d'interactivité qui vont, je pense, changer les habitudes politiques.
Vous étiez allé regarder du côté de Bernie Sanders aux États-Unis, qui était face à Hillary Clinton. Frédéric Mettezo, chef du service politique de France Inter. Une question un peu plus personnelle. Est-ce que vous avez l'impression, vous, en tant que journaliste, d'être contourné ou en tout cas d'observer une volonté de vous éviter en créant si La République En Marche se constitue en média, est-ce que vous avez l'impression que c'est une volonté de vous contourner ?
Non, je pense pas que ce soit la création de tel ou tel support numérique qui montre la volonté de contourner un journaliste. La volonté de contourner un journaliste, c'est quand un homme ou une femme politique refuse de venir durablement dans un média, c'est quand...
Le message est passé.
Non, mais c'est vraiment pas du tout seulement pour Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence, c'est quand un président de la République durablement ne donne pas de conférence de presse, c'est quand nous n'avons pas d'explications. On nous reproche souvent de faire du off. Le off, ça permet aussi de se faire expliquer.
Le off, c'est quand un politique parle à un journaliste, mais que ça, voilà, c'est pour l'éclairer. Voilà. Et ce sont des choses qu'il ne dirait pas à l'antenne.
Ou pas seulement, justement, pas seulement un politique. Quand un conseiller technique, par exemple, un conseiller en charge de l'économie veut nous expliquer un projet de loi, on lui téléphone, il va nous dire, par contre, vous pouvez pas me citer parce qu'il n'est pas politique, parce qu'il n'est pas élu, il n'est pas une personne publique. En revanche, il nous donne beaucoup d'informations pour comprendre ou en tout cas pour essayer de faire passer son message, à nous de faire le tri. Donc c'est plutôt ça le contournement. C'est, et si on veut parler du cas du nouveau président de la République, la création de cette chaîne, je la vois pas comme un contournement. Si le président de la République
n'utilise que ça
et ne souhaite pas faire des conférences de presse, répondre à des interviews, venir dans des émissions, là ça devient notamment, ça devient plus problématique.
Ouais, je vais reposer ma question un peu différemment. Quelle est la différence, Frédéric Mettezo, entre la communication d'Emmanuel Macron et celle de François Hollande ? Vous avez Gaspard Ganzer qui l'a géré à l'Élysée.
Il y a deux différences, c'est que effectivement Emmanuel Macron a choisi de beaucoup moins parler publiquement que François Hollande. François Hollande avait déjà, là on est fin août, il avait déjà fait au moins l'interview du 14 juillet. Il avait dû, j'imagine, il avait fait un journal de 20 heures au mois de septembre. Voilà, il avait déjà fait des apparitions grand public et télévisuelles. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, et ça je peux le raconter parce que c'est une notoriété publique, nous n'avons plus beaucoup d'interlocuteurs à l'Élysée qui peuvent nous expliquer ce qui se passe. Effectivement, quand nous avions François Hollande ou Nicolas Sarkozy précédemment, avant j'étais pas journaliste politique, nous avions des interlocuteurs qui pouvaient nous dire ben voilà, quand le président dit ça, il pense ça. Alors, on devait faire le tri quand nous avions les conseillers de François Hollande.
Est-ce que ce n'était pas justement, on va demander à Gaspard Ganzer, mais est-ce que ce n'était pas justement un peu gênant ce lien direct qu'avait François Hollande avec les journalistes? J'ai lu aujourd'hui que le fameux off dont vient de parler Frédéric est mort, et le livre Gérard Davet et Fabrice Lhomme, un président ne devrait pas dire ça, en est sa pierre tombale.
Il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre-là. Non, moi, j'ai jamais eu à regretter d'avoir un président de la République qui respectait les journalistes et qui faisait tout pour expliquer son action. Alors après, peut-être qu'on l'a pas toujours bien fait, il l'a peut-être pas toujours bien fait, je l'ai peut-être pas toujours bien fait, mais on avait raison de le faire. Et je pense qu'on gagne toujours à chercher à expliquer ce que l'on fait. Et je suis certain que le président Emmanuel Macron et son équipe, après quelques ajustements liés à l'arrivée à l'Élysée, vont s'exprimer davantage en on et en off. Je ne doute pas du tout que le président de la République actuel donnera des interviews. J'espère le plus tôt possible, parce qu'on a
mais
besoin d'explications.
Mais on lit que la parole présidentielle est sacralisée, c'est le retour de la fonction présidentielle. Vous qui étiez là avant, ça vous fait quoi?
Après, je pense que ça fait presque partie de la règle du jeu de rompre avec la communication de son prédécesseur. François Hollande avait fait avec Nicolas Sarkozy avec Jacques Chirac et Jacques Chirac avec François Mitterrand. C'est un grand classique de la communication publique. Il en reste pas moins que pour se faire comprendre, il faut expliquer, et pour expliquer, quand même, passer par le biais du canal journalistique en on ou en off, ça reste quand même la meilleure des solutions.
Éric est avec nous au 01 45 24 7000. Bonsoir Éric, bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Oui, bonsoir. Je voulais intervenir parce qu'il me semble que la nouvelle communication, notamment numérique, elle est due aussi à une forme de discrédit du milieu journalistique. Je m'explique. Il y a des gens qui sont, admettons, sympathisants du Front National et qui vont trouver sur Internet tout ce qui leur est nécessaire pour continuer d'être sympathisants du Front National. Ils vont avoir les émissions qu'il faut pour continuer. Donc il n'y a pas de pluralité. Chacun va chercher sur Internet ce qu'il a envie d'entendre. Et en fin de compte, le travail de journaliste qui devrait normalement proposer plusieurs opinions et plusieurs solutions, je pense qu'il subit un discrédit de la part de la part des gens qui ne se retrouvent pas dans l'information puisqu'ils ont la possibilité de chercher l'information qu'ils souhaitent sur Internet. Et puis je voulais juste préciser que par exemple si on prend le travail journalistique par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle au Venezuela, c'est assez extraordinaire qu'on entende sans arrêt parler d'un nombre de morts et qui est toujours déplorable, mais on nous explique pas qu'il y a autant de morts d'un côté que de l'autre et que les responsabilités concernant les morts du Venezuela sont partagées. Et voilà, c'est le type d'informations que les gens après sur Internet vont aller se renseigner. Ils vont se rendre compte qu'il y a aussi des policiers qui sont tués, que ça s'est tué des deux côtés. Et du coup, ça jette un discrédit sur l'ensemble du milieu journalistique, mon point de vue.
La réponse, Éric, de Frédéric Mettezo, chef du service politique de France Inter.
Oui, et je vais sortir de mon champ traditionnel pour juste donner une information à Éric sur le Venezuela. Je pense qu'effectivement, c'est une situation très complexe, c'est pas manichéen, c'est pas noir et blanc, on est comme souvent dans les zones grises. Une information objective à donner Eric, c'est que nous ne pouvons pas nous rendre au Venezuela. Il faut un mois, deux mois, trois mois pour avoir un visa. Tantôt pour tel média c'est accepté, tantôt pour tel média c'est refusé. Ou dans un même média, on va autoriser un journaliste à y aller et pas un autre. Et puis le jour où votre visa s'arrête, vous devez vite fait rentrer à l'aéroport parce que sinon vous serez arrêté par la police. Donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur le Venezuela. Encore faudrait-il que les autorités de ce pays autorisent les journalistes à travailler.
Vous êtes satisfait, Eric ? Éric est parti. Nous avons des mails, nous avons Martine qui nous écrit « Les journalistes ont de moins en moins de distance avec les sources policières, judiciaires, etc. et se contentent souvent de relayer. Ça explique une partie de la défiance. » Frédéric Mettezo. Beaucoup de questions sur les journalistes et la mise en cause du travail des journalistes.
Non, mais la personne qui vous envoie Martine a raison. Le danger, c'est pas tant d'être, je sais pas ce que ça veut dire, se distancier d'une source. Le seul vrai danger, c'est la source source unique. Effectivement, quand nous faisions des papiers politiques sur l'action de François Hollande, nous n'appelions pas que l'Élysée. Heureusement, il fallait croiser, il fallait confronter. Donc, le problème n'est pas une espèce de distance, de proximité, le mot connivence qu'on sort souvent, c'est plutôt le problème de recouper et de multiplier les sources. Parfois, sur une seule information, il m'arrivait d'avoir deux, trois, quatre interlocuteurs du président de la République de l'époque pour être sûr que les interlocuteurs m'avaient tous bien dit la même chose.
J'approuve totalement cette intention de La République En Marche, nous dit Daniel par mail. Ce n'est pas aux journalistes à expliquer aux citoyens ce que pense et ce que veut faire un parti. C'est au parti de s'adresser aux citoyens. Manuel Bompard de La France Insoumise, très rapidement, puisqu'on approche des 20h.
Oui, juste une dernière chose, c'est un sujet qui n'a pas été évoqué, c'était aussi la précarité dans les médias. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur, des fois, cette critique un peu du suivisme et du fait que les sujets ne sont pas fouillés, qu'on a l'habitude de recopier un peu l'information du voisin, ça vient aussi du fait qu'on n'a pas le temps, qu'on a 10 millions de dossiers à traiter. Vous voyez, je vais prendre la défense des journalistes là en disant que leur situation sociale est aussi une difficulté qui empêche d'avoir une information de qualité. Donc la question de la fin de la précarité dans les médias me paraît être une question centrale si on veut avoir une information de qualité.
Et est-ce que vous aussi vous dites comme Daniel que ce n'est pas aux journalistes d'expliquer ce que veut faire un parti, c'est au parti à s'adresser aux citoyens ?
Non, mais je pense que le parti peut s'adresser aux citoyens et les gens quand ils écoutent la communication du parti, ils savent que ça vient du parti et donc ils savent aussi que ce n'est pas objectif. Et puis ensuite, les médias apporteront, je dis pas une objectivité, mais un point de vue peut-être contraire ou des éléments d'analyse qui permettront peut-être de renforcer et de préciser la réception de l'information par le citoyen.
Frédéric Mettezo.
Oui, pour terminer, je dirais malgré tout que les médias dits généralistes ou les médias traditionnels ont encore de beaux jours devant eux puisque Sud Radio vient de recruter Henri Guénaud, Thierry Ardisson vient de recruter Raquel Garrido des Insoumis, LCI vient de recruter Julien Drey. Tous ces gens-là vont venir faire des éditoriaux et défendre des points de vue politiques et radicalement opposés. Hein. Guénaud, Garrido, Drey, c'est pas vraiment tous la même sensibilité. Donc ces gens-là, sur des médias traditionnels, ça montre qu'il y a quand même un tout petit peu d'intérêt pour ces vieux médias.
Ça veut dire qu'ils ont envie d'être sur ces médias et de s'adresser directement, là encore.
De s'adresser directement, sauf que...
De pas avoir un intermédiaire journalistique.
Sauf qu'ils seront face à des journalistes qui, j'imagine, les relanceront et leur mettront face à eux des interlocuteurs. Et tout ça fera des débats sans doute extrêmement riches. Et c'est comme une source, il faut avoir plusieurs interlocuteurs.
D'un mot, Gaspard Ganzer, quel est votre plus grand regret en tant que communicant à l'Élysée ?
Vous avez une heure devant vous. Non, je pense qu'on peut toujours mieux expliquer ce que l'on fait. Et tout l'effort de redressement qu'a lancé François Hollande sur les questions économiques et sociales, je pense qu'on aurait pu encore mieux le valoriser. On n'a pas trouvé la baguette magique pour l'expliquer, mais j'espère que l'histoire lui rendra justice.
Gaspard Ganzer, ancien responsable de la communication de François Hollande, merci. Manuel Bompard, en direct de Toulouse, merci. Merci également à Étienne Legrand, qui a assuré le duplex depuis France Bleu Toulouse. Merci Frédéric Mettezo sur
merci.
France Inter.
Merci.
Dans quelques instants, affaires sensibles et les informations, puisque vous l'entendez sur France Inter, il est 20h.